Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 16h. Tout de suite, pas la peine de crier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Stéphane Rosière.
Il est géographe. Avec lui, c'est une troisième étape dans une semaine consacrée aux murs. Aujourd'hui, les murs servent à séparer deux espaces. Ils servent à marquer une propriété, ils servent à fonder des villes. Les murs du jour sont géopolitiques. Ça commence.
Vous voyez le mur blanc entre les deux bâtiments? On regarde dans le milieu, il y a un système d'alarme.
Le pictogramme chinois qui est utilisé pour écrire « ville » peut en fait littéralement être lu en « mur de la ville ». C'est précisément ce mot que choisissent différents journalistes ou militants pour parler du climat qui règne en ce moment en Chine. Ils parlent de la grande muraille du silence. Philippe Grangereau, correspondant du quotidien Libération à Pékin, écrit « Dans un rappel à l'ordre glaçant, l'administration de l'État a interdit la semaine dernière aux journalistes de réaliser ou de publier des contenus critiques sans l'accord de leurs employés. » Un texte qui barre donc clairement la route à toutes les voies critiques. Depuis 1987, cette fameuse grande muraille de Chine est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO sous le numéro 438. Et bien 2014, Reporters sans frontières classe la Chine au 175e rang en matière de liberté de la presse. Grande muraille du silence donc, si la première est à protéger, l'autre est à faire tomber. Il est 16h passé de 1 minute, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, si tout le monde se concentre, on fait apparaître des arbres sur l'image Polaroid. Vers 16h20, troisième moment d'une semaine entièrement consacrée aux murs. Hier, Pierre Dichoulot écrivait pour les murs de la ville en créant des langages et des images irrécupérables. Lundi, Jeanne Sautière passait dans un livre les murs de prison dans un sens puis dans l'autre. Aujourd'hui, les murs séparent et se durcissent. Tombent-ils vraiment quand ils tombent? Nous en parlerons avec Stéphane Rosière. Vers 16h50, nous écouterons un poème de Pierre Paolo Pasolini, avant à 17h de retrouver les équipes du 5 à 7. Mais c'est Stanislas Nordet qui déballe sa bibliothèque pour vous cette semaine. Il choisit aujourd'hui un extrait de La Rage de Pierre Paolo Pasolini, justement, dans l'écoute.
Que s'est-il passé dans le monde après la guerre et l'après-guerre? La normalité. Oui, la normalité. Dans l'état de normalité, on ne regarde pas autour de soi. Tout autour se présente comme normal, privé de l'excitation et de l'émotion des années d'urgence. L'homme tend à s'assoupir dans sa propre normalité. Il oublie de réfléchir sur soi, perd l'habitude de se juger, ne sait plus se demander qui il est. C'est alors qu'il faut créer, artificiellement, l'état d'urgence. Ce sont les poètes qui s'en chargent. Les poètes, ces éternels indignés, ces champions de la rage intellectuelle, de la furie philosophique. Il y a eu des événements qui ont marqué la fin de l'après-guerre. Prenons pour l'Italie la mort de De Gasperi. La rage commence là, avec ses grandes, grises funérailles. L'homme d'État antifasciste et reconstructeur a disparu. L'Italie s'adapte dans le deuil de sa disparition, et s'apprête donc à retrouver la normalité des temps de paix, d'une véritable, immémoriale paix. Mais quelqu'un, le poète, se refuse à cette adaptation. Il observe avec détachement, le détachement du mécontentement, de la rage, les derniers actes de l'après-guerre, le retour des derniers prisonniers, souvenez-vous, dans des trains sordides, le retour des cendres des morts, et le ministre Pella, qui, plein de morgue, scelle la volonté de l'Italie de participer à l'Europe unie. C'est ainsi que recommence en paix le mécanisme des relations internationales. Les cabinets succèdent aux cabinets. Les aéroports voient un incessant va-et-vient de ministres, d'ambassadeurs, de plénipotentiaires qui descendent des passerelles d'avions, sourient, disent des mots vides, stupides, vains, mensongers. Notre monde, en paix, déborde d'une haine sinistre, l'anticommunisme, et sur fond opprimant et déprimant de guerre froide et d'Allemagne divisée se profilent les nouvelles figures des protagonistes de l'histoire nouvelle, Khrouchtchev, Kennedy, Nehru, Tito, Nasser, De Gaulle, Castro, Ben Bella, jusqu'à la rencontre à Genève des quatre grands, et la paix, encore troublée, se dirige vers son installation définitive. Et la rage du poète envers cette normalisation qui est consécration du pouvoir et du conformisme ne peut que croître encore.
Stanislas Nordès est un extrait de La Rage de Pier Paolo Pasolini et une articulation précise entre une paix toute relative et la rage du poète qui naît de son refus d'adaptation à une paix qu'il ne considère pas comme profondément pacifique. Pier Paolo Pasolini, c'est un auteur avec lequel vous cheminez depuis un moment maintenant. Peut-être quel est le statut de La Rage dans le corpus de textes de Pasolini qui est un compagnon?
J'ai toujours eu l'impression que, en tout cas moi, mon ferment en tant qu'homme de théâtre, et acteur, metteur en scène, c'est la colère. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce qui, par exemple, ce qui me dresse sur un plateau de théâtre, c'est la colère que j'ai en moi qui, tout d'un coup, me donne autorité d'une certaine manière pour me dresser à un moment donné et porter d'autres mots, d'autres colères écrites par des auteurs. Donc, je pense que c'est ce que j'ai reconnu tout de suite dans Pasolini quand je l'ai lu à ma sortie du conservatoire national d'art dramatique. C'est-à-dire que j'ai immédiatement identifié cet homme qui s'est construit sans cesse contre. C'est-à-dire que dans cette espèce d'adversité-là, contre ses contemporains, ses autres poètes contemporains conformistes, contre les cinéastes conformistes, contre la pensée conformiste, contre les gens qui s'érigeaient contre ses idées politiques, le communisme. Il y a quelque chose chez lui que je reconnais dans le fait qu'il n'a jamais lâché jusqu'à la fin cette petite chose à l'intérieur de son corps, quoi, cette petite boule, et qui, à mon sens, lui a permis de conserver une acuité et une lucidité aussi. J'ai l'impression que, curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la colère ou la rage, ça vous fait déborder de vous-même, etc. Vous perdez toute lucidité. Pour moi, une colère bien placée, une rage bien nourrie, elle permet une lucidité extrême.
Et elle est toujours à l'œuvre aujourd'hui? C'est-à-dire, quand vous dites que c'est ce que vous avez reconnu au moment de la sortie du conservatoire d'art dramatique dans Pasolini, et c'est ce qui vous a fait tenir sur un plateau, c'est toujours le cas?
Oui. D'ailleurs, quand j'enseigne, parce que j'enseigne beaucoup à des jeunes acteurs, l'art du théâtre, c'est le seul endroit où j'ai une difficulté, parce que je veux toujours garder une distance quand même. C'est important entre le maître et l'élève de garder une certaine distance. Et donc, je ne peux pas leur transmettre ma colère, évidemment, mais j'essaie de leur transmettre la nécessité que le corps soit agi de l'intérieur par quelque chose de puissant à partir du moment où il vient sur la scène de théâtre. Je crois que tous les grands acteurs, en tout cas, ils sont mus par... je crois que c'est Ariane Mnouchkine qui dit que si on est acteur, c'est parce qu'il y a quelque chose en soi, dans son enfance, qu'on n'a jamais accepté, jamais reconnu, et contre lequel on finira toujours par se dresser sur scène. Alors, c'est une autre manière de le dire, mais je crois que là, il y a une forme de violence à être sur un plateau de théâtre, à se dresser devant 300, 400, 500, 1000 personnes, qui n'est possible véritablement, à mon sens, que si il y a quelque chose qui vous tient très fort et qui vous dresse. Et chez moi, c'est la colère.
Comment ça peut être mis en mots face à des jeunes acteurs que vous formez? Comment ça, qui est quelque chose de senti, peut être questionné par du discours en tant que professeur?
Par du discours, c'est difficile, c'est-à-dire que c'est possible, par contre, il faut toujours voler aux jeunes acteurs. Donc, je vais vous donner un exemple, je vais travailler sur une scène avec un jeune acteur pendant un bon bout de temps, et puis tel jour, il va s'énerver tout d'un coup très fort parce qu'il n'y arrive pas, et puis je vais lui dire là, ce qui vient de t'arriver à cet instant-là, parce que tu vois, tu t'es énervé, tu n'as plus supporté l'impasse dans laquelle tu étais, donc il y a quelque chose qui est sorti de toi, une violence qui est sortie de toi, qui ressemble à quelque chose qui peut t'aider pour avancer. Donc parfois, on essaie juste de saisir des accidents aussi, c'est-à-dire on est dans une séance de travail et puis l'acteur, pour une raison ou une autre, a un accident, ça peut être une émotion tout d'un coup qui lui échappe, etc. Et tout d'un coup, être capable de lui dire, de mettre le doigt dessus, lui dire là, il vient d'arriver quelque chose, il vient de t'arriver quelque chose, là, il t'est arrivé quelque chose, on l'a vu, ça nous a bouleversés, donc sache que quand il t'arrive quelque chose sur un plateau de théâtre, nous, spectateurs, on le voit. Donc il faut qu'il t'arrive des choses sur un plateau de théâtre et pas simplement que tu joues des choses. Il faut que... Pasolini disait jeter son corps dans la bataille. Et je trouve que pour un acteur, c'est assez beau. Je jette mon corps dans la bataille.
Quelle musique on met après Pasolini ?
C'est pas facile. On va mettre Saint-Saëns. Saint-Saëns et Dalila.
Demain, Stanislas Nordet poursuit le déballage de sa bibliothèque avec un extrait d'un mal imaginaire de Maxime Montel. En attendant, tout de suite, trouvez une forêt dans votre tête et faites-en le décor du Polaroid qui suit. Les branches du haut se rejoignent. Dessine un arc, sculpte le morceau de ciel. Au pied de l'arbre, un jeune homme porte un débardeur dégradé de pastel sur coton léger. Sa tête est à moitié rasée. Du côté cheveux, ce sont des boucles. De l'autre, la rugosité d'une langue de chat. La peau de son crâne est tatouée par le relief de l'écorce. Ses épaules sont larges. Son front très doucement tendu entre les nuages dessillés au crayon blanc et l'écran de son téléphone. Il se penche, il déchiffre à voix haute des morceaux de poèmes sur l'écran. Il les répète une fois, deux fois. Quand il les sait par cœur, il se lève, fait le tour de l'arbre, y appuie sa joue, murmure les mots. Ce que l'arbre compte d'habitants, d'écureuils, de fourmis, de vers, de coccinelles, d'oiseaux, s'empresse de transmettre à voix basse les strophes du texte. Bientôt, l'arbre entier connaît le poème entier. Alors le jeune homme s'en écarte, fait quelques pas, regarde son téléphone, compose un numéro et dit en se déplaçant « Et là, tu m'entends ? Et si je me mets là, est-ce que tu m'entends ? Ok, là, tu m'entends. » Les joues rosies, les yeux émus, il tend le téléphone vers l'arbre qui se met à réciter le poème en entier. Au bout du fil, le mystère lui aussi est entier.
Yeah. M.O.B.B. shit. You hear that? Shit, I'm on it like flies on shit. You in the presence of winners, keep your eyes on this. Stand too long, fuck around, turn into stone. My Ruger like Medusa and my goons like drones. Hover over battlefields like we in the war zone. ET niggas get shook, wanna phone home. Tryna use a lifeline, but nobody got them answers. Big guns pulling out them MC Hammer dances. No time to get caught, the judge throwing books. Like niggas read, we just know about the jokes. Clip Dells in my ashtray. Higher than the motherfucker, I'm half baked. Spending money like I never even had cake. On my B, they being broke, left a bad taste. Endophobia, crib full of cash, homie. A bitch walked in, I said, welcome to utopia. Look up to look at us, we stars, stare at us, we are. Them niggas check the motherfucking credits. Look up to look at us, we stars, stare at us, we are. Them niggas check the motherfucking credits. Fucking yes. Credits, fucking credits.
You know what I mean? Check us out, bitch. Ass nigga.
Yeah. Where your money and your things at? Put it all on the infamous winners from Queens. We a safe bet, astrologers say that. Mob Deep got that forever wave. You just a ripple in the vast ocean, the opiate flow. The empire dope, needle state boys like the building stand tall. Don't make me have to fast you up, nigga, I'll fix you. The young lady wanna come with me, let her through. It's no need to grab her arm like that. Stop resisting, you fighting, wasting all our time. You embarrassing your own self, look at you now. Stretched out, staring up at the twilight. Security bounce, you took my cavalier attitude for being a bluff. I took your woman, she gave me gratitude in the truck. She want this legendary dick in her life. I got that glow, street credit score A1, like you ain't know.
Look up to look at us, we stars, stare at us, we are. Them niggas check the motherfucking credits. Look up to look at us, we stars, stare at us, we are. Them niggas check the motherfucking credits. Fucking credits, fucking credits.
Pour ce Polaroid, Miss Chanel vous faisait entendre Mobb Deep avec le titre Check the Credits, extrait pardon, de l'album The Infamous Mobb Deep sorti récemment. Le 19 juin dernier a commencé le festival Futur Composé. Mathieu Conquet évoquait vendredi dernier dans la matinale le travail musical du collectif Astéréotypie mené avec les musiciens de Moriarty. Le festival Futur Composé fête sa 14e édition et jusqu'au 3 juillet, création théâtrale, animation, concerts, parcours spectaculaires valoriseront les pratiques culturelles des jeunes gens souffrant de troubles autistiques ou apparentés et valorisera leur implication dans ce champ. C'est aussi l'occasion de promouvoir la création de lieux où ils puissent participer à des activités culturelles et artistiques en qualité d'amateur ou de professionnel et évidemment de contribuer à changer le regard d'un large public peu sensibilisé à ce type de handicap. Du 19 juin au 3 juillet, Autisme et Culture Futur Composé 2014, nous mettrons le lien sur notre page internet. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et le troisième moment d'une semaine qui regarde les murs. Lundi, nous écoutions de part et d'autre du mur de prison et l'écrivain Jeanne Sautière trouvait les mots et la langue pour faire exister des présences au-delà de la banale indignité des enfermements. Hier, on était tour à tour celui qui affiche et celui qui regarde. Le graphiste Pierre Dichoulot créait des situations de lecture dans la ville, dans l'espace public, avec des mots et des typographies irrécupérables. Aujourd'hui, les murs séparent. Il semble que le mur soit toujours la forme réflexe au XXIe siècle pour séparer deux espaces. C'est un mur qui fut dressé entre les deux Allemagnes, un mur qui fut dressé entre les terres devenues Israël et le reste de la Palestine, des murs construits à Belfast, à Bagdad encore tout récemment. Dans un monde où circulation et globalisation sont censés être les maîtres mots, il apparaît que c'est à une durcification des frontières que l'on assiste plutôt, corollaire d'un rapport au flux migratoire, et de notre rapport à l'autre. Quel que soit le nom qu'on leur donne, il faut les bâtir, ces murs, il faut financer leur construction, leur entretien et paradoxalement, leur surveillance. Alors, à qui profitent les murs? Stéphane Rosière, c'est l'une des questions que nous allons tenter de dénouer cet après-midi. Vous êtes géographe, directeur du master géopolitique, conjoint aux universités de Reims et de Magette Bell, directeur de la publication aussi d'une revue en ligne L'Espace Politique. Bonjour et bienvenue.
Merci de votre invitation.
Il y a une différence absolument considérable entre les murs et les frontières. Certaines frontières sont des murs, mais les murs ne sont pas nécessairement des frontières et réciproquement. Un mur, c'est ce qui sépare et qui sépare uniquement. Donc c'est pour mettre un obstacle. Un mur a une fonction négative. La frontière a une toute autre fonction. La frontière ne sépare pas seulement. Elle sépare, certes. Mais elle est aussi un lieu de passage. Et donc, la frontière peut être l'objet d'une reconnaissance mutuelle, acceptée mutuellement.
On commence par une distinction dans la voix de Jean-Claude Zarka entre frontières et murs. Est-ce que c'est une distinction qui est aujourd'hui tout à fait ou majoritairement opérante ?
Oui, bien sûr, ce qui a été dit est tout à fait exact. La frontière, c'est une délimitation. Toutes les frontières ne sont pas des murs et tous les murs ne sont pas des frontières. Ceci dit, je pense qu'on pourrait rajouter que le mur peut protéger. Il y a quand même des gens qui édifient des murs pour se protéger, qu'on pense au Moyen-Âge, je ne suis pas historien, mais le mur pouvait rassurer, il peut inquiéter. Tout dépend en fait de quel côté du mur on se situe. Alors, ce qui m'intéresse surtout en tant que géographe, c'est de questionner la mondialisation à travers ces artefacts frontaliers. Et là, à mon avis, ce sont des symboles d'une réalité beaucoup moins plaisante que ce qu'on pourrait imaginer ou de la représentation la plus courante de la mondialisation, qui est plutôt positive, pacifique, pacifiante, liée à l'enrichissement. C'est le commerce qui est le biais de la paix entre les nations, etc. etc. Alors je pense que ces murs frontaliers posent de nombreuses questions.
Aujourd'hui, sont minoritaires tout de même les frontières qui sont matérialisées par des murs ?
Oui, elles sont minoritaires. Le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus. Alors c'est vrai qu'il y a eu une diminution du nombre des murs après la chute du mur de Berlin en novembre 89, mais on aurait pu s'attendre à leur disparition pure et simple. Or, au lieu de cela, en fait, on a vu de plus en plus d'États édifier des murs, si vous le voulez, ou des clôtures d'ailleurs. Ce ne sont pas toujours des murs aux frontières, moi je m'intéresse plus spécifiquement aux frontières, un nombre d'États grandissant qui se sont dotés de ces systèmes de protection. L'exemple a été donné essentiellement par les États-Unis et Israël au début des années 2000.
Quand je disais que c'était encore, ça apparaissait encore comme le système réflexe quand on veut séparer deux espaces, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'au XXIe siècle, nous ayons d'autres solutions, d'autres techniques, d'autres technologies presque pour faire une séparation entre deux espaces que l'on voudrait, séparation infranchissable. C'est toujours le mur qui est le réflexe.
Oui, enfin en tout cas, on constitue des barrières. Moi personnellement, j'utilise plus le terme de barrière. À noter que parmi les barrières édifiées, et je m'aperçois que je n'ai pas donné de chiffres, mais sur les 250 000 kilomètres environ du linéaire mondial de frontières, si on les mettait toutes bout à bout, ça fait à peu près 250 000 kilomètres.
Toutes les frontières.
Oui, Oui, vous obtiendriez une ligne de 250 000 km et vous avez entre, suivant les dernières estimations que j'ai pu faire, entre 22 et 27 000 km de barrières sur cet ensemble. Donc un peu plus de 10%. Vous allez me dire, c'est peu. Mais ce chiffre était inférieur en 1990. Donc en réalité, on en construit de plus en plus et de nombreuses entreprises participent à ce processus, les frontières permettant éventuellement un enrichissement incroyable puisque ce sont des marchés très importants. Donc on a une logique qui est tout à fait contradictoire ou contraire à ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. La mondialisation, c'est la chute du mur de Berlin, c'est l'unification du monde, les barrières disparaissent. Eh bien, pas du tout. La mondialisation génère du mur, génère de la séparation. Pas partout.
Quand vous parlez dans différents articles de durcification des frontières, qui va à peu près dans le sens de ce que vous venez d'énoncer là, c'est une durcification qui, d'une part, prend acte de la multiplication de ces murs. Est-ce que ça prend aussi acte, par exemple, d'une augmentation de la violence aux alentours de ces murs? Est-ce que ça va de pair?
Durcification, bien sûr les deux vont de pair. Le terme de durcification était utilisé pour indiquer qu'on construisait, on renforçait les dispositifs aux frontières. Ce que nos collègues anglo-saxons expriment à travers le néologisme de rebordering. Mais la refrontiérisation, c'est pas très élégant et on a abandonné en français la refrontiérisation, se contente du rebordering. Donc le rebordering, c'est
c'est une frontière qui existe déjà mais qu'on consolide.
La frontière n'est pas un mur. Donc la frontière existe déjà mais on va la consolider. Et en général, le mur vient à l'appui d'autres murs, c'est-à-dire le mur physique ou la barrière physique vient appuyer des barrières administratives. C'est-à-dire que, en fait, dans la plupart des pays qui ont édifié des barrières, on cherche à limiter l'entrée d'immigrants, notamment clandestins, d'abord par des barrières administratives. On va refuser l'asile, on va refuser les demandes donc des migrants pour bénéficier des systèmes de protection, on va chercher à les renvoyer. Donc ces migrants vont chercher à contourner le mur administratif. Et c'est là que le mur physique intervient. En fait, ce sont des murs anti-migratoires essentiellement. En général, ils sont justifiés par un triptyque habituellement utilisé par les gouvernements contre le terrorisme, contre le trafic de drogue et contre l'immigration clandestine. Et mon analyse, au bout de quelques années de recherche sur ce sujet, c'est que ce n'est pertinent que pour les migrants clandestins. Ce sont les seuls qui véritablement
peuvent être gênés. C'est la seule zone d'efficacité presque du mur qui est dressée entre deux espaces. Oh. Ça empêche, d'une certaine manière, ça n'empêche que
les migrants.
Donc ça n'empêche aussi que des flux pauvres.
En fait, la plupart des murs d'aujourd'hui sont des murs anti-pauvres. Quand j'aborde ce sujet avec mes étudiants à l'université, je leur rappelle la phrase fameuse de la traversée de Paris, salaud de pauvre. Salaud de pauvre, il nous oblige à construire des murs, comme si on avait que ça à faire. En plus, ça coûte relativement cher. Donc il faut voir si notre politique de reflux des migrants est réellement économiquement fondée.
Sans parler des droits de l'homme et sans parler de l'idéologie, est-ce que c'est économiquement viable?
La question se pose évidemment.
Qui décide de la construction d'un mur? Ça se fait à quelle échelle?
Les gouvernements. Mais il y a un lobbying de manière évidente de la part du lobby ou du secteur qu'on qualifie de sécuritaro-industriel aujourd'hui. Je reprends l'expression de Julien Saada au Québec qui a travaillé sur ces questions et comment les grands groupes liés à la sécurité et à la défense ont des propositions de murs clés en main. EADS, Boeing, Thales.
Concrètement, ils viennent voir les gouvernements en disant si vous avez un petit problème à un endroit, nous, voici nos outils. Voici combien ça peut vous coûter.
Oui, si vous voulez, en général, il y a des appels d'offres. Ce sont des appels d'offres et les entreprises y répondent. Alors, ce sont des marchés quand même tout à fait intéressants. Je rappelle que, grosso modo, un mur, en général, c'est plutôt une clôture dotée de caméras et de différents capteurs. Ce ne sont pas des murs. C'est entre 1 et 2 millions d'euros le kilomètre, à la louche. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait entre 22 et 27 000 qui étaient soit construits.
Ça fait grimper les chiffres.
Les chiffres sont astronomiques. Et ce qui est intéressant, et moi je suis là, je suis chercheur, je ne suis pas agent de ces entreprises, etc. C'est de voir que ces sommes aujourd'hui, elles sont recherchées par d'autres segments de la société, l'école, les retraites, l'entretien des routes. Est-ce qu'il faut vraiment faire cet investissement? Est-ce que c'est une obligation? Or, il y a très peu de débats, en fait. Hein. Je crois qu'il y a, au contraire, un consensus général qui va aujourd'hui, par exemple, en France, du gouvernement qui est socialiste jusqu'au Front National.
Qui va dans le sens du mur.
Oui, dans le sens du mur, bien sûr. Tout le monde va dans le sens du mur. On va droit dans le mur. Bon, c'est un choix, mais il faut voir que ça coûte extrêmement cher. C'est d'une efficacité discutable.
Est-elle évaluée par qui, cette efficacité du mur?
Alors, elle n'est pas évaluée parce que les gens qui passent les mailles ne sont pas comptabilisés. Mais on a toujours des moyens de compter. Un des moyens de compter le passage clandestin, c'est simplement de compter les morts. Or, ce bilan est désastreux. Je rappelle que les historiens américains Singer et Small avaient dans les années 70, et nos collègues utilisent souvent cette référence, considéré qu'on pouvait parler de conflit à partir de 1000 morts par an. Je rappelle que le rideau de fer interallemand a causé environ, juste entre les deux Allemagnes, c'était à peu près un quart du rideau de fer, a causé 1000 morts en 40 ans. Or, aujourd'hui, mourraient sur les frontières, notamment des pays riches, États-Unis, Union européenne, Arabie saoudite et le golfe d'Aden, etc., mourraient environ 4 à 5 000 personnes par an. C'est-à-dire que finalement, nous tuons beaucoup plus que l'Union soviétique.
Et nous sommes en conflit.
Et nous ne sommes en conflit avec personne, sauf avec les pauvres.
Si l'on s'en tient à l'idée qu'un conflit est, entre guillemets, officiellement déclarable à 1000 morts par an...
Il n'est pas déclarable. On peut évaluer une situation comme étant une situation de conflit à partir de 1000 morts par an. On est à 4 à 5 000 morts, on est largement, et c'est pour ça que j'avais parlé de guerre migratoire, on est dans des guerres migratoires extrêmement sévères, avec des gens qui veulent absolument rentrer et d'autres qui veulent absolument les empêcher. Et ça nous amène à aller aux racines, je crois, aux dynamiques du problème, c'est le développement. On parle de développement depuis Bretton Woods, depuis les années 45, etc. On en est où concrètement? Certes, quelques pays ont réussi un décollage comme la Chine, mais le développement reste une vraie question. C'est comme le développement durable. J'ai l'impression qu'on pourra en parler pendant des siècles, il ne se passera pas grand-chose. Alors, les murs viennent mettre, je dirais, avec les murs, on met le doigt sur, je dirais, des représentations qui sont complètement erronées de notre monde, qui seraient pacifiées, marquées par la fluidité. La fluidité concerne les porteurs de passeports de quelques grands pays heureux et chanceux, dont je suis. Mais il faut en avoir confiance, nous avons une chance. Nous appartenons à la business class citizenship, la liberté de circulation, elle appartient aux riches, aux très riches, même dans les pays pauvres, eux peuvent passer. Mais les pauvres sont exclus de la mondialisation, c'est une réalité.
Puisque vous avez évoqué deux autres raisons qui ne sont pas la tentative d'endiguer les flux migratoires, mais aussi la lutte contre les trafics de drogue et la lutte contre le terrorisme, est-ce que ce sont deux secteurs dans lesquels on peut officiellement dire que les murs sont inopérants, inefficaces?
Totalement. Aucun terroriste n'est passé à quatre pattes sous une barrière frontalière.
Ni aucun grand trafiquant de drogue.
Je sais que au Mexique, ils ont inventé des catapultes à la romaine qui envoient des ballots de marijuana mexicaine du côté californien. Mais je pense que les États-Unis sont peut-être aujourd'hui le plus grand producteur mondial de haschich. D'autant qu'il y a des processus de dépénalisation, libéralisation dans plusieurs États américains, ce qui est assez intéressant dans le pays qui a généré cette prohibition mondiale et avec force coercition. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est purement de l'effet d'annonce. Le terrorisme ne peut pas être, sauf dans quelques situations particulières. Pensons à Israël, qui construit sa barrière de sécurité au début des années 2000 dans un contexte d'attentat. Donc je dirais que sur les 22-27 000 km de barrière, il y a peut-être quelques centaines de kilomètres qui peuvent avoir effectivement un rôle de protection antiterroriste. Mais globalement, je dirais que c'est l'essentiel des barrières frontalières sont construites entre des pays en paix, qui ont de bonnes relations, et le meilleur exemple en est États-Unis-Mexique. Un gros tiers des 3000 km de la frontière américano-mexicaine a été barriérisé sous différentes formes, et ce sont des pays qui... Il n'y a aucun enjeu de terrorisme, et même, je pense, de trafic de drogue. Par contre, le seul enjeu significatif, ce sont les migrants. Oui.
Quel est le mur le plus impressionnant ou le plus important qui a été construit ces 15-20 dernières années?
Je n'apporterai qu'une réponse subjective. Je pense que le mur le plus important, c'est celui qu'on voit tous les jours. Mais je dirais qu'en termes symboliques, celui que les Israéliens ont construit à Jérusalem est très frappant, très marquant. Je voudrais quand même souligner que la plupart de ces murs sont marqués par une volonté de discrétion. Ça sera le cas, par exemple, pour la frontière extérieure de l'Europe de Schengen. Qui y a vraiment été, à part y être passé rapidement, qui a été l'observé? En fait, c'est un mur très discret qui se veut, qui veut se confondre dans le paysage, parce qu'il ne veut pas. Finalement, il a du mal à s'assumer en tant que tel. Donc, beaucoup de murs sont discrets, ce qui n'était pas du tout le cas en Israël et notamment à Jérusalem. Je rappelle qu'en Israël, l'essentiel, c'est une barrière, en fait, des clôtures plus ou moins doublées de diverses technologies. Mais à Jérusalem, c'est un mur en béton. Là, je crois qu'il y avait une volonté d'affirmer, d'afficher, etc. Peut-être que le mur le plus intéressant, malgré tout, reste ceux qui bordent les États-Unis côté Mexique ou l'Union européenne, ou du moins l'espace Schengen, parce que, malgré tout, il n'empêche pas les flux. C'est-à-dire qu'il y a un mur, mais il y a quand même des flux. Il y a la frontière américano-mexicaine est la plus traversée au monde. Mais ce qu'on veut empêcher, c'est qu'il y ait des flux illégaux.
Il existe aujourd'hui des murs qui sont, entre guillemets, encore infranchissables. C'est-à-dire, en fait, des murs qui ne sont pas surveillés par des humains avec une porte par laquelle peuvent passer des piétons. Est-ce qu'il existe aujourd'hui vraiment des murs qu'on ne passe pas?
Les concepteurs de murs vous vendent des murs infranchissables.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une porte. Il n'y a pas une porte pour un type qui traverse.
Ben là, je reviens de la frontière slovaco-ukrainienne, qui est donc un tronçon de 90 km de l'enveloppe extérieure de la frontière de l'espace Schengen. Et les entretiens que j'ai eus avec les différents responsables à Bratislava, la capitale, et sur place, eh bien, ils disent que dans la zone, parce que cette barrière slovaque est constituée d'une chaîne de caméras, 200 ou 300 de mémoire, caméras qui surveillent et qui sont postées tous les 100 mètres et qui surveillent l'ensemble de la frontière. Eux se targuent d'attraper 100% des gens qui passent cette frontière. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, le pourcentage paraît très élevé.
Vous voyez sur notre gauche deux grésos en tenue de campagne qui sont près d'un blocos avec des meurtrières. L'un s'appuie sur le blocos et nous mitraille avec sa jumelle. Les grépos, ce sont les gardes-frontières. Il y a, si vous voulez, une brigade de gardes-frontières de quelques milliers d'hommes qui sont chargés uniquement de la surveillance du mur sur les 167 km qui entourent Berlin. Il y a surtout une zone interdite qui fait à peu près 100 mètres de profondeur, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, une clôture électrique, puis un terre-plein semé de miradors, vous en voyez un, d'abris en béton, vous voyez également, de parcours à chiens, et effectivement, le gendarme qui est à ma droite me fait voir un beau chien policier. Alors regardez, il est accroché, vous voyez, à une, comment dirais-je, à un câble, vous voyez, et il fait, si vous voulez, un parcours de 100 mètres. Et puis au bout de ces 100 mètres, il est relevé par un autre chien policier, et ainsi de suite.
Le nationalisme est maintenant un danger horrible. Et pas seulement les grands nationalismes, mais les petits nationalismes, des petits groupes sont encore, pires. Et je ne pense pas seulement au nationalisme, mais aussi aux petits nationalismes municipaux où chaque ville devient comme une famille fermée et pas ouverte. C'est un phénomène terrible. Malheureusement, après la chute des murs, des murailles totalitaires, on va bâtir et construire d'autres murs qui ne sont pas moins dangereux.
Stéphane Rosière, c'est la voix de Claudio Magris qui termine ce son et qui était précédé d'un son de 1979 qui était une description extrêmement précise de l'aspect physique du mur de Berlin 10 ans avant sa chute. Qu'est-ce qui tombe et qu'est-ce qui ne tombe pas en 1989 quand le mur de Berlin tombe ?
Bien, le béton tombe, mais en fait, la frontière va se déplacer. Les Allemands de l'Est sont intégrés au monde occidental. Puis bientôt, par exemple en 2004, les nouveaux pays membres de l'Union européenne, ils vont aussi intégrer Schengen. Et c'est à leur frontière orientale que nous avons déplacé le mur. Le mur n'a pas disparu. Bien évidemment, on a mis en avant un monde sans frontières, etc. Il y avait des espoirs aussi à cette période, peut-être d'une meilleure coopération avec la Russie, mais pour faire simple, je veux dire, en 2014, eh bien, aujourd'hui, il y a un mur qui est toujours là. Et les Slovaques, dont je parlais tout à l'heure, ou les Allemands de l'Est, eh bien, sont passés du bon côté du mur, mais le mur s'est déplacé. Donc, en fait, le béton de Berlin est tombé, mais le mur n'a pas disparu. Il s'est reconstitué petit à petit, assez rapidement, à la frontière orientale de l'espace Schengen, qui est peut-être plus important comme structure que l'Union européenne lorsqu'on aborde la question des murs et des frontières.
Quand on entend Claudio Magris dire que finalement le plus inquiétant, c'est aujourd'hui les nationalismes, les petits nationalismes municipaux comme les grands nationalismes nationaux, est-ce que vous diriez que cette frénésie de construction des murs, quelle que soit la forme que prennent les murs, caméras ou murs en béton, est une traduction de ce sentiment-là, de quelque chose qui serait de l'ordre du repli nationaliste ?
Il va être difficile de tout résumer comme ça, mais bon, bien sûr. Moi, je voudrais peut-être insister. Je pense que Claudio Magris a raison. Les nationalismes, on se replie sur son espace, etc.
Moi, je voudrais aussi. Y compris à l'échelle de la ville, quoi.
Oui,
on n'a pas encore parlé notamment des ghettos urbains, mais
voilà,
c'est le même processus.
C'est moins mon. Je suis moins spécialisé là-dessus, mais il n'y avait pas d'où en Italie, par exemple, célèbre, Belfast, où il y a eu des murs. Mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais peut-être souligner la force des lobbying. Parce que vous avez des entreprises qui ont des budgets colossaux, qui gèrent des millions, des milliards, qui ont des budgets supérieurs à ceux des États, qui font un lobbying pour prouver l'efficacité de leur dispositif. Et vous avez des gouvernements qui veulent être réélus. Donc, il y a une logique d'une course technologique, de même qu'on a un tel téléphone G3, G4, G5.
On a le meilleur mur et on pourra s'en vanter auprès des électeurs.
On a les meilleurs murs et on pourra s'en vanter auprès des électeurs. C'est, je dirais, c'est un système, un effet pervers de la démocratie. On va se doter de systèmes de plus en plus efficaces avec la pression des lobbies qui deviennent en fait les acteurs de plus en plus les plus puissants face à des États structurellement désargentés par la dette. En fait, il n'y a pas d'obligation, mais il y a une course à l'armement, à la frontiérisation et pas du tout au développement. Et à mon avis, cet aspect du lobbying du secteur securitaro-industriel est très important aussi et il est nourri par les régionalismes, localismes, nationalismes.
Mais presque ça n'irait pas dans le sens de l'idéologie qui cherche un appui physique ou une matérialisation par le mur. Ça irait dans le sens d'un mur qui se construit pour construire un mur et qui est au passage nourri grassement par des idéologies qui traînent. Mais vous irez plutôt dans ce sens-là alors ?
Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même moins de guerres, même s'il y a l'Ukraine, même s'il y a la Syrie ou l'Irak actuellement, il y a quand même moins de guerres. Donc vous avez des grandes entreprises qui ont du matériel à vendre. C'est bien gentil, mais quand on fabrique des armes, des détecteurs, des caméras, alors il est vrai que le secteur militaire, sécuritaro-industriel...
C'est un seul et même secteur,
avant, on parlait du secteur militaro-industriel. Et juste, c'est Julien Saada qui a inventé l'expression de secteur sécuritaro-industriel pour désigner quelque chose qui est plus fongible dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que les mêmes entreprises, elles vont vendre aussi des caméras et les mêmes clôtures aux frontières, les mêmes aux aéroports, aux zones industrielles, aux mêmes, vous pouvez en acheter, à la limite, comme particulier, pourquoi pas vous offrir une caméra dans votre jardin, si ça vous rassure, pour observer le jardin à distance et autres systèmes merveilleux. Donc, je dirais qu'il y a vraiment des logiques économiques qui sont derrière, qui, donc, peut-être vont profiter des flux migratoires par un développement qui tarde, qui est toujours le résistible développement. Donc on va essayer de jouer sur ces asymétries.
Sur ces calendriers, c'est-à-dire tant que finalement il y a des zones qui n'ont pas atteint le développement de richesse, de dignité, de vie respectable dans certaines zones géographiques de la planète, en gros tant que ceci n'est pas réalisé, c'est un calendrier qui est tout à fait propice au développement du secteur sécuritaro-industriel.
Tout à fait. C'est parce que la mondialisation, en fait, n'est pas l'enrichissement généralisé. Et justement, à mon avis, avec les frontières, on touche
vraiment...
Et donc,
c'est une brèche où peuvent s'engouffrer...
Où se sont engouffrées les grandes firmes. La France en profite. Hein. On a de nombreux emplois en France qui sont générés par ce marché. Je rappelle que c'est des entreprises françaises qui ont réalisé la sécurisation des frontières de l'Arabie Saoudite. Marché colossal. Je ne donnerai pas de chiffres à l'antenne, je ne les ai pas là avec moi et je ne veux pas induire en erreur les auditeurs, mais c'est en milliards d'euros.
Est-ce qu'on peut imaginer que ce sont des marchés qui sont contrôlés par la vie politique française ?
Ah non, pas que je sache. mais on a des dynamiques dont on profite, dont le centre profite. Finalement, les pays développés exportent notamment vers des pays moins développés et on continue finalement, on garde notre position de centre avec une périphérie qui est toujours dominée et les habitants de la périphérie tentent de rejoindre le centre parce que finalement, on est toujours dans un système dont on profite.
Ils se sont littéralement jetés sur le triple grillage haut de 7 mètres qui sépare l'Afrique de l'Europe. À l'aube ce vendredi, environ 300 clandestins originaires d'Afrique subsaharienne sont entrés dans la ville espagnole de Melilla. Il s'agit de l'assaut le plus massif qu'a connu l'Espagne ces dernières années. Un assaut préparé par des migrants qui se sont rassemblés toute la nuit côté marocain. La barrière de Melilla a été érigée en 1998 dans le but d'arrêter l'immigration illégale et la contrebande. Pourtant, sur la frontière grillagée qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole, la pression migratoire ne cesse de s'accentuer. Une fois sur le sol espagnol, les migrants rejoignent le CETI, le centre d'accueil du gouvernement. Plus de 200 personnes y sont donc arrivées ce vendredi et elles vont devoir survivre dans ce centre débordé qui héberge à présent 1300 personnes pour seulement 480 places.
On entend Stéphane Rosière, le vent sur le territoire de Melilla et l'assaut récent de ces 300 migrants qui décident de se jeter tous ensemble en ayant préparé, alors on ne sait pas exactement, c'est assez flou dans les propos de la journaliste, peut-être vous en savez un peu plus, mais en ayant préparé cet assaut sur la barrière qui est élaborée en 1998. En quoi est-elle singulière cette barrière de Melilla?
C'est la frontière terrestre européenne la plus murée. C'est tout à fait, ce sont des structures tout à fait impressionnantes. Le grillage monte, sauf erreur, jusqu'à 6 mètres. Vous avez différents rideaux de grillage, comme c'était d'ailleurs expliqué tout à l'heure à propos de Berlin. Un rideau doit être doublé au moins, ou sinon triplé. Et puis entre les rideaux, vous avez ce que les Espagnols appellent la sirga, qui est un enchevêtrement de barres métalliques qui fait que si on tombe, on est littéralement coupé en morceaux.
C'est totalement médiéval quand même,
c'est
d'imaginer
totalement
ça.
C'est totalement médiéval. J'invite les auditeurs à aller regarder la sirga, quoique sirga comme mot-clé, ça donne pas de grands résultats, mais mur, Ceuta, Melilla, c'est extrêmement. Ça, c'est une frontière européenne très visible, très symbolique, qui affirme l'autorité, un peu à la manière du mur à Jérusalem, qui affirme le contrôle, l'autorité, mais avec des résultats moyens, si on veut, notamment eu égard à ce coût, puisque effectivement, ces groupes de migrants ont réussi à passer. Ce sont de grands sportifs. Hein.
Et ils ne sont pas sans arriver totalement blessés et épuisés, puisque ce sujet-là, dont on ne diffuse que la bande sonore, était un sujet de télévision, un reportage où l'on voit très bien les migrants qui arrivent ensuite dans ce centre totalement surpeuplé et qui sont blessés de toutes parts, qui sont épuisés par la course et par le franchissement de cette barrière. Donc c'est aussi au péril de la vie. Le fait d'élever ce genre de barrière que vous appelez les barrières, c'est aussi au péril de ceux qui, de toute façon, tenteront de les franchir.
Alors oui, bien sûr. Les migrants, s'ils sont épuisés, c'est peut-être pas tellement à cause du franchissement lui-même, mais ça fait déjà des mois, des semaines, ou que sais-je, qu'ils vivent dans les forêts qui jouxtent Ceuta et Melilla, pourchassés par les forces de l'ordre marocaines. Ils vivent dans des cartons. Qu'est-ce qu'ils mangent? On n'en sait trop rien. Leurs conditions psychologiques, si on devait, nous, vivre dans les mêmes conditions, on serait mort. Je rappelle le journaliste italien qui s'appelait Gatti, excusez-moi d'oublier son prénom, il a vécu avec des migrants qui ont traversé le Sahara. Il a dit ce qu'ils font, c'est incroyable. C'est comme un sportif de haut niveau, c'est de la Coupe du Monde, si vous voulez. Et il a dit, ces gens-là, ce qu'on leur fait, c'est comme si on avait giflé Neil Armstrong de retour de la Lune. Voilà ce qu'on leur fait. Ils font des prouesses, ils mettent évidemment leur vie en danger. Des centaines, des milliers meurent chaque année. Là, en ce moment, tous les jours, ils meurent dans le Sahara, ils meurent en Méditerranée, ils meurent sur les grillages, ils meurent. Et voilà. Et nous, on renchérit en renforçant les murs.
La mer Méditerranée, puisque vous la citez, est un mur qui est désormais plus assez mur, plus assez barrière, plus assez frontière. C'est vrai qu'à la fois, toutes les zones d'eau sont des zones de passage, sont des zones de traversée depuis la nuit des temps, mais elles sont aussi des zones qui font frontière entre les États. Le fait de mettre des murs avant l'eau, c'est signe que nous ne contrôlons plus de la même façon ou que ce n'est plus aussi dissuasif ?
Alors, on a mis des murs à Ceuta et Melilla parce que ce sont des petits territoires, des enclaves espagnoles. Donc, si on passe du Maroc à Ceuta, on est en Europe.
On est en Europe.
Mais sinon, on peut dire que les Européens peuvent remercier Dieu d'avoir créé la Méditerranée parce qu'on a un mur magnifique.
Dieu ou quelqu'un d'autre, oui.
Voilà, Dieu ou quelqu'un d'autre. On a un mur magnifique. Les gens s'y noient, on ne les voit pas, ils coulent au fond, c'est magnifique. Alors que les Américains sont beaucoup plus gênés parce que eux, effectivement, ils vont mourir sur la terre ferme. Nous, en fait, la Méditerranée se transforme en gigantesque cimetière. Et c'est vrai que si au nord, on est heureux, National 7 chantait traînait dans les années 40 ou 50, au sud, la Méditerranée, qu'est-ce que c'est ? C'est un cimetière. Et une étendue d'eau, si on n'a pas de bateau, c'est un mur. Donc, si on a des moyens, encore une fois, on revient toujours aux moyens. Si on a des moyens, une étendue d'eau est effectivement quelque chose un axe que l'on peut emprunter. Si l'on n'a pas de moyens, si l'on ne sait pas nager, si l'on n'a pas de bateau, c'est un mur infranchissable.
Et on en revient à ce que vous désignez en début d'entretien comme étant le mur contre le pauvre, le mur contre la pauvreté, c'est-à-dire que la majorité finalement des murs qui sont érigés dans le monde sont des murs qui veulent se défendre contre ce qui est considéré comme pauvreté.
Absolument. L'usage du mur ne peut quasiment en aucun cas avoir un effet sur les trafics de drogue. De toute façon, aujourd'hui, on peut faire pousser des kilos de marijuana en Islande. Il n'y a aucun problème. Il n'y en a aucun effet sur le terrorisme. Les gens qui veulent vraiment mener des actions extrêmement efficaces, etc., ne passent pas les frontières, ou très rarement, enfin, certainement pas en Amérique du Nord où cela avait été utilisé comme argument. Donc, en fait, ça se résume toujours aux questions migratoires et notamment aux pauvres, absolument.
Dans les actions américaines qui ont été menées avec pour prétexte de lutter contre le terrorisme, de nombreux murs ont-ils été construits ?
Eh bien, je dirais qu'on en a en Arabie Saoudite, on en trouve en Thaïlande.
Construits par les Américains ?
Non. Alors, je voulais signaler là des murs qui sont construits sur le même modèle.
D'accord.
Où on met en avant la question du terrorisme. Thaïlande face à la Malaisie.
Non, moi, je parlais vraiment des actions récentes qui datent finalement de post septembre 2001. Est-ce que ça a été l'une des actions menées par les Américains de construire des murs sur certains territoires ?
En tout cas, les firmes américaines se sont nettement emparées de ce
marché, dont on
marché. Boeing pour les secteurs qui ont été expérimentés au Nouveau-Mexique, Raytheon qui devait construire la frontière saoudo-irakienne. En fait, ce sont des Français qui ont pris le marché à Raytheon. Je dirais que c'est plutôt les entreprises, encore une fois. Plus que les États. Alors les États donnent le là. Si moi je fais construire 1000 km de barrière et je peux proclamer des résultats, le voisin voudra faire pareil. Et puis derrière, il y aura toujours les lobbyistes qui vont essayer de faire vendre ou de faire acheter leurs produits. Mais plus que les États, sont les firmes. De ce point de vue-là, c'est bien la mondialisation, c'est bien l'âge de nouveaux acteurs. Et en fait, ils vont utiliser le pouvoir d'achat ou ce qu'il en reste des États.
On a parlé de la relative chute finalement du mur de Berlin, en tout cas du déplacement d'un mur qui n'est plus fait de béton mais fait d'autre chose, fait de lois par exemple.
Oui.
Est-ce qu'il y a des vraies chutes de murs ? Est-ce qu'il y a vraiment des murs dont on voit disparaître la construction et dont on peut signaler après le vrai rétablissement d'une circulation ?
Entre les deux Allemagnes, tout simplement. Là, c'est vrai qu'il faudrait quand même être de mauvaise foi pour dire que le mur en Allemagne n'a pas disparu. Alors, dans les mentalités, c'est pas si simple.
C'est pas du tout si simple.
Et on faisait le lien
entre... Ne serait-ce qu'à Berlin.
Voilà, on faisait le lien avec le développement. On s'aperçoit que les lenders de l'Allemagne de l'Est ont toujours un niveau de vie qui est inférieur à ceux aux lenders de l'Ouest, de l'ordre de 20% ou 25% ou que sais-je, inférieur. Là aussi, le développement tarde. Finalement, le centre a capté peut-être pas tous les capitaux. Ça va pas toujours dans un seul sens, mais la main-d'œuvre, etc. Et le développement de l'Est est resté en retrait. Donc il y a bien des murs qui disparaissent, ou les murs chinois. Il y avait d'abord parce que les murs chinois que vous aviez évoqués tout au début de l'émission, eh bien, de part et d'autre, maintenant c'est la Chine. Donc là, ils sont restés comme objets touristiques pour certains segments. Donc bien sûr, les murs disparaissent, hein, comme les hommes, comme les États, comme tout. Rien n'est éternel.
À transition poétique, réponse poétique, on a aussi commencé par entendre la prose de Pier Paolo Pasolini. Ce sont les poèmes que l'on écoute jusqu'à vendredi. Ils nous sont lus par Pierre Ancis de la Comédie Française. On écoute.
Il y a 1000 siècles, au printemps, s'allumait l'herbe sous nos pieds qui couraient, vide, ici à Casarsa, entre les zones éblouies. La lueur de cette herbe s'évanouit sur les murs de l'église obscure et sur notre tête grise. Prenez la pelle, pauvres innocents. Voici, après deux coups, dans la lumière d'une fraîche matinée morte, l'enfant menant en pâture les dindes. La pelle vous tombe des mains, pauvres gens de Casarsa, effrayés. C'est un miracle d'être vivant.
Tu as tout de suite aimé ce café. En entrant, tu n'avais pas remarqué que c'était un café français. Était-ce un hasard que, dans tes dérives new-yorkaises, tu trouves l'atmosphère propice au repos dans un café français ? Les proprios, eux, la France, ils en avaient gros sur la patate. Pas moyen d'y vivre, d'y entreprendre. Au moins, l'Amérique, c'est l'Amérique. Un truc épatant. Le pays de l'argent, du business. Tu étais donc là, à Manhattan, au café Gitane, avec la France qui t'était tombée dessus, assis dans la salle entièrement décorée de gitanes copiées ou inspirées de celles du paquet de clopes de la CEITA, variation sur un modèle unique, gitane en boîte d'allumettes, en affiche, en vinyle, en peinture, en céramique, mais d'autres femmes aussi. À une table voisine, une jeune fille dont la beauté te paraît évidente, émouvante, les cheveux courts, un petit air de Jinsy Beag dans À bout de souffle. Tu la regardes de temps en temps et puis de plus en plus, cherchant le moyen d'engager la conversation. L'occasion attendue se produit lors d'un mouvement de table d'ampleur que ton propre déplacement peut faciliter et qui t'amène à t'asseoir juste à côté d'elle, l'air de rien, bien joué. Elle était accompagnée par des copines, mais maintenant elle est seule. Elle écrit et dessine dans un cahier comme tu le fais toi-même. Voilà qui fait une merveilleuse entrée en matière. C'est que, toi aussi, tu es arrivé à ton carnet de notes, ostensiblement posé sur la table. Bientôt, tu lui montres quelques croquis, des slogans recopiés sur les murs, des poèmes, des notes, qu'importe. Surtout, tu parles avec elle. Et elle se laisse entraîner dans la conversation. Elle se laisse même aller, semble-t-il, à un certain bien-être. Elle t'explique qu'elle vient de Auckland, en Nouvelle-Zélande, qu'elle est arrivée il y a peu de temps, à Manhattan, pour suivre les cours d'une école de dessin, des beaux-arts et de toutes ces choses graphiques. Elle te montre son carnet rempli de dessins et d'esquisses bien campées. Tu lui tends ton carnet et lui demandes d'y dessiner la salle du bar. Elle accepte. Elle trace d'un trait sûr une image ligne claire en noir et blanc. En échange, tu écris un poème sur son carnet. Tu lui offres un verre qu'elle accepte volontiers et vous parlez encore et encore jusqu'au moment où elle décide de s'en aller. Mais en partant, elle fait quelque chose qui t'étonne et t'éblouit. Elle sort une carte de visite à son nom sur laquelle elle ajoute au dos son numéro de téléphone at Scott 941 95 58. Elle part, rayonnante de blondeur dans le soleil de l'après-midi finissante. Depuis Mott Street, à la porte du café Gitane, il faut imaginer l'Empire State Building qui se dresse orangé ou mauve suivant l'éclairage du couchant, fière de sa masse de plus célèbre building du monde. Tu la regardes s'en aller, rayonnante de blondeur sur le pavement de Mott Street. Tu es heureux, la vie est belle à Manhattan. C'est vrai.
Stéphane Rosière, dans un très beau texte qui s'appelle « Survivre au mur », John Berger explique comment résister à la multitude des murs ainsi dressés et il termine dans le 9e point, avant le 10e et dernier point. Ici, l'unique don de l'avenir est le désir et c'est précisément de désir dont il est question dans cette chanson. J'espère que ça se termine bien pour ce garçon qui rencontre cette jeune fille dans le café Gitane. C'est un des morceaux que vous avez suggéré d'écouter et de partager avec les auditeurs. C'est Café Gitane, signé Manuel Bienvenue. Quel est votre rôle dans cette histoire?
En fait, j'ai écrit le texte et je l'ai lu et il l'a intégré dans son disque, comme d'ailleurs sur tous ses disques, gentiment et de manière importante. Manuel Bienvenue me fait participer. J'étais ravi de de faire savoir son travail magnifique, parce que Manuel Bienvenu est un grand musicien qui fait un travail de qualité.
Et il faut entendre par là que vous avez, outre votre activité de géographe, de chercheur, de directeur de master, de professeur d'université, une activité d'écriture poétique ?
Oui, j'écris depuis toujours en fait, hein, donc j'ai besoin d'autres respirations. Comme vous l'avez remarqué, les sujets dont nous avons parlé sont assez graves, hein, et puis parfois l'université est bien administrative, enfin on a besoin, en tout cas c'est mon cas, d'autres respirations, et la poésie c'est magnifique, on a besoin de rien.
Merci beaucoup Stéphane Rosière d'avoir été avec nous cet après-midi pour ce troisième moment d'une semaine consacrée au mur. Pour écouter cette émission et ceux qui la précèdent, franceculture.fr fonctionne parfaitement. On pourra aussi s'abonner aux différents podcasts pour nous écrire, le même site internet et un formulaire qui fonctionne parfaitement. Merci pour vos mots. Aux manettes aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Meige, Mathilde Hureau pour les archives et INA. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain Debec-de-Lièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi, une émission réalisée par Miss Anne-Laure Chanel.